Histoire de peinture. Aujourd'hui, la règle du jeu.
Bien sûr, la perspective a des règles. A des règles, puisque ce qui caractérise et ce qui distingue la perspective à l'italienne de la perspective flamande, parce que les flamands aussi sont excellents en perspective au XVe siècle, mais ils n'établissent pas de règles mathématiques. Ce que fait Alberti, ce qu'il prétend faire, c'est en théorisant ce qui avait été pratiqué une quinzaine d'années auparavant par Brunelleschi, Donatello, Masaccio, c'est fonder la perspective en théorie mathématique et donc en vérité, à la fois sur l'observation de la nature et sur les mathématiques. En ce sens, Alberti est un homme du XVe siècle, absolument, et on peut dire un contemporain Nicolas de Cuse, pour lequel la mathématique est la voie d'accès à la vérité divine. Même si on l'atteint jamais, seule la mathématique donne une certitude relative, mais une certitude à la connaissance humaine. Et c'est ce qui fait l'intérêt spécifique de la perspective italienne. Donc il y a bien des règles mathématiques, c'est ce qui la caractérise. Mais ces règles, l'artiste, il en joue. C'est-à-dire que c'est des règles d'un jeu. Il y a un jeu et il y a des règles. Les règles, on les respecte, mais on peut les jouer. Alors, quelles sont les règles avec lesquelles on peut jouer? Les trois points qui font la perspective, qu'on a déjà évoqué, le cadrage, le point de fuite et le point de distance. Je prendrai un seul exemple. Le point de fuite. On parle souvent de perspective centrale à propos d'Alberti. On oublie que quand Alberti parle de rayon central, il parle du rayon de l'œil. Il parle pas du centre du panneau. Et il dit, je place un point dans ce quadrant, le cadre, là où je veux. Il peut le mettre au milieu, il peut mettre en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Il peut mettre où il veut. Pourvu, dit-il, que ce soit à l'intérieur du tableau. Mais on peut très bien décider de mettre le point de fuite à l'extérieur du tableau ou au bord du tableau. On a évoqué l'annonciation de Cortone de Frangelico. Le point de fuite est au bord du tableau. Il n'est pas dans le tableau. Bon, donc, le point de fuite, on peut le placer où on veut. Et on a très vite des exemples de cette liberté dans le jeu. C'est Domenico Veneziano, le maître de Piero della Francesca. On a évoqué l'annonciation, la petite annonciation avec sa porte de ville anormale, qui représentait, donnait figure à l'incarnation. Eh bien, cette annonciation, elle est sous le panneau central de la prédelle d'un retable, le retable de Sainte-Lucie, avec une sainte conversation, c'est-à-dire la Vierge en trône entourée de saints. Eh bien, la perspective magistrale de la sainte conversation, le point de fuite, il est bas. Il est situé bas. Il n'est pas situé à la hauteur des yeux des personnages, comme le recommande Alberti. Il est situé exactement dans l'entrejambe de la Vierge. Alors, il y a un certain historien, John Moffitt, qui en a tiré des conclusions psychanalytiques sur Domenico Veneziano ou le sens de cette sainte conversation. Je crois que là, c'est non pas la surinterprétation, mais l'interprétation proprement anachronique. Amusante, très intelligente, brillante, mais je crois vraiment non fondée en histoire. En revanche, on peut être certain que Domenico Veneziano, en abaissant le point de fuite, Et en le situant, il n'est pas visible, puisque justement il est dans du tissu, donc il n'est pas visible. Il obtient un effet immédiat, qui est un effet rhétorique, et qui est que l'architecture peinte très imposante se rabaisse elle-même, puisque l'horizon devient plus bas, et que les figures surgissent, sont glorifiées par la perspective. Et ça, Chastel l'avait très bien noté, la perspective est un moyen de faire surgir les figures vers le spectateur. Ça creuse l'espace, et du même coup, ça fait surgir, ça fait venir vers nous la figure qui est peinte dans cet espace qui se creuse. Il y a une dialectique rhétorique entre profondeur fictive et surgissement fictif de la figure. Alors, il y a d'autres exemples de jeux sur la perspective dès le XVe siècle, on pourrait les accumuler. Je pense à nouveau à Antonello de Messine, à son Saint-Sébastien, qui est à Dresde également, et où là aussi on a un point de fuite très très bas. Mais vraiment très bas au niveau du mollet ou presque du talon de Saint-Sébastien. Le tableau est un tableau vertical et assez étroit. Donc un point de fuite très bas, un cadrage très serré, très proche de la figure. Les architectures lointaines ont l'air plus petites que le saint, qui donc protège la ville, puisque la fonction de Saint-Sébastien, c'est d'être le bouclier contre les flèches de la peste, etc. Donc un saint qui devient monumental, par rapport à une ville qui, à cause du point de fuite rabaissé, a l'air plus petite, mais si les bâtiments continuaient jusqu'auprès de Saint-Sébastien, eh bien, on verrait qu'ils sont plus grands. Mais comme c'est cadré serré, d'où jeu sur le point de fuite et le cadrage, qui permet un effet cinématographique, si on voulait, un effet de gros plan, tel objectif tout à fait remarquable, et en même temps, qui permet un autre effet très net et incontestable, c'est que ce point de fuite, comme est la projection de notre œil, hein, de l'œil, projection théorique de l'œil du spectateur, hein, du rayon central de l'œil du spectateur, eh bien, il indique donc la position de notre œil à nous. Et donc, nous sommes minuscules par rapport à Saint-Sébastien. Hein, nous sommes minuscules par rapport à Saint-Sébastien. Nous sommes exactement comme ces minuscules dévots qui sont dans d'autres tableaux contemporains représentés agenouillés au pied de l'immense saint qui les protège, dont la perspective à la fois permet une mise en scène admirable, hein, de rhétorique et un savoir-faire admirable chez Antonio de Messine, mais en même temps elle permet de rappeler la dévotion, hein, et de faire du spectateur le dévot, hein, du grand saint protecteur. Donc l'idée de règle de perspective, oui, un joueur d'échecs vous dira, il y a des règles aux échecs, mais le grand joueur c'est celui justement qui sait jouer avec les règles et surprendre par un emploi inattendu de l'ouverture à la reine. Moi, je suis pas un grand joueur d'échecs, hein. Ça me suffirait de savoir faire un peu inattendu l'ouverture à la reine pour penser que je joue bien et pas simplement comme un manuel scolaire. Bon. Et puis, alors, par la suite, hein, les peintres qui aiment jouer à la perspective vont pouvoir faire des effets extraordinaires. Un des plus grands maîtres de ça, c'est Tintoret. Au 15e siècle, les perspectives de Tintoret sont tout à fait extraordinaires parce que qu'elles soient centrées, non centrées, verticales, il y a toujours un effet de dramatisation et de rhétorique tout à fait extraordinaire. En fait, la perspective, elle est intimement liée, je le pense, à une conception rhétorique de la peinture. C'est-à-dire la peinture doit persuader. La peinture doit enseigner, persuader et émouvoir. C'est les trois tâches de la rhétorique selon Cicéron. Et la perspective est un instrument, hein, permettant d'émouvoir et de persuader le spectateur. Alors l'absence donc de contrainte, elle me paraît fondamentale. Si on veut comprendre un peu mieux, hein, la dynamique interne de cette période qu'est le 15e siècle, où s'invente la perspective, il y a à la fois l'invention des règles, ça c'est certain, mais aussi immédiatement l'invention du jeu à l'intérieur de ces règles. Et le fait même que la perspective ne soit pas une contrainte ou ne soit pas une unité, coercitive, hein, et qui n'aurait qu'un seul sens, etc., etc., je crois, est montré aussi par le fait que très rapidement, en une cinquantaine d'années, la perspective régulière géométrique se démode. Hein, c'est-à-dire que à la fin du 15e siècle, à Florence, la ville par excellence de la perspective, eh bien, on continue bien sûr à faire de la perspective, mais les peintres les plus avancés, ceux qui font le mouvement de l'histoire de la peinture, en fait, se désintéressent relativement de la perspective. Alors, il y a plusieurs raisons à ce point. C'est être archaïque, si vous voulez, vers 1490 à Florence, que de faire de la perspective géométrique appliquée. Hein, on a déjà dépassé le problème. Alors, il y a différentes raisons. Une des raisons, je crois, c'est un des contenus de la perspective. On en a évoqué d'autres il y a quelque temps, mais je crois que je n'avais pas évoqué celui-là. C'est que la perspective, à son origine, hein, c'est-à-dire dans les années 1430-1450, elle a une dimension politique. Hein, c'est un instrument de représentation qui a aussi des résonances politiques. Qu'est-ce que je veux dire? C'est très dangereux de prétendre voir la politique en peinture et surtout en perspective. Il se trouve simplement que, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est que la construction perspective à son début? C'est construire un lieu urbain, puisque la perspective c'est l'architecture, donc un pavement, une place de ville, de façon à ce que l'historia, hein, l'histoire, s'y déroule et ait l'air de faire quelque chose. Alberti, que l'histoire n'ait pas l'air d'être un tumulte, hein, non tumultuare, oui détour, bon, et pas faire un tumulte. Bon. Ce mot m'a toujours paru singulier, parce que Alberti savait très bien ce qu'il écrivait, c'est un Florentin, il sait beaucoup mieux que moi ce qu'il voulait dire, mais une chose qui m'a frappé, c'est que tumultuare, le tumulte, hein, ça a un sens très précis à Florence en 1435, ça ne pouvait pas ne pas évoquer une des grandes révoltes populaires de la fin du XIVe siècle, le tumulte des Ciompi. Hein, et que donc, quand il dit il faut que l'histoire ait l'air de faire quelque chose et non pas de tumultuare, c'est effectivement qu'il y a une conception politique de l'histoire qui est en jeu dans cette conception de la perspective. Et cette conception, eh bien, c'est que l'histoire, elle agit sur la place de la ville. C'est-à-dire, c'est une histoire civile, une histoire civique. Alberti, à ce moment-là, en 1435, et je dis bien en 1435, eh bien, on peut considérer que son texte, le De Pictura, est un des grands textes de ce premier humanisme civil de la Renaissance qui comprenait les plus grands chanceliers de la ville de Florence, Coluccio Salutati en tête au début du siècle. Il s'agit, avec la perspective, de montrer que la ville, hein, la cité, est le lieu d'une histoire humaine et civile. Et donc, il y a une dimension politique dans cette, je crois vraiment, j'en suis profondément persuadé, cette première conception de la perspective. Et puis, comme vous le savez, la République de Florence devient très vite une fiction. Hein, parce que les Médicis, et comme l'Ancien en particulier, tout en respectant absolument les formes de la République, va peu à peu prendre tous les leviers du pouvoir, et Laurent le Magnifique fera encore mieux. C'est-à-dire que la République devient effectivement un principat. bien, la République florentine ne reviendra effectivement qu'après que les Médicis auront été chassés et Savonarole brûlé. À ce moment, on aura à nouveau une période républicaine à Florence. Mais sinon, Florence est un principat pratiquement dès 1460-65 déguisé. Et dans les années 1480, le principat de Lorraine est parfaitement installé. Et il se trouve que, conjointement, la perspective n'est plus un élément que de modernité. Bon, bien sûr, on la sait, mais quand on prend les peintres de la fin du XVe siècle, en particulier, je pense, entre autres, à Fra Bartolomeo, mais aussi à Léonard, qui est quand même un Florentin, n'oublions pas au départ, eh bien, on constate que la définition géométrique de l'espace, l'idée d'une histoire qui a l'air de faire quelque chose dans Bateau Moultoiré, grâce à un ordre géométrique imposé à la représentation, c'est plus tellement d'actualité. Fra Bartolomeo fait de la perspective, mais elle n'est plus vraiment géométrique. C'est-à-dire que les zones, les lignes sont plus dessinées, ça devient caché. Et ce qui surgit au contraire, et ça c'est très fascinant à observer, c'est le fait que les figures de l'histoire, vous rappelez Alberti, le lieu, et puis les figures, qui a l'air de faire quelque chose. Ce qui se passe à la fin du XVe siècle, c'est que ce sont les figures avant le lieu. C'est-à-dire les figures se sont appropriées le lieu de l'histoire, de même que le prince, je veux dire, pour aller vite, pour simplifier, de même que le prince s'est approprié les règles de la République. Et alors, vous me direz, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, d'accord, mais c'est aller un peu vite en affaire. Il se trouve que une historienne américaine, Nancy Struver, a fait un très beau livre autour, justement, des conceptions de l'histoire et de la rhétorique au XVe siècle florentin, et qu'elle donne des textes splendides qui montrent que au début du siècle et jusque dans les années 1440-50, le lieu de la liberté, de la libertas par excellence, c'est la place publique. C'est là que se joue la libertas civique et humaine, mais civique et historique, elle se joue sur la place publique. Et que à partir des années 1470-80, le lieu de la libertas, ce n'est plus la place publique, c'est le studiolo. C'est-à-dire l'endroit où le prince, ou même le grand privé, l'humaniste, se retire, loin des tracas, des tromperies du monde. C'est-à-dire que la place est devenue le lieu de la tromperie, et le studiolo est devenu de la vérité, est devenu le lieu de la vérité et de la liberté. Ce glissement qu'a très bien mis en valeur Nancy Struver, il me paraît fondamental. Beaucoup plus important la notion d'infini, etc., pour penser la perspective. La perspective, au départ, est un instrument permettant de construire le lieu civique de l'histoire et de la liberté. C'est, on va dire, Florence, République contre Milan, contre les Visconti à Milan. Et puis, le siècle basculant et les princes prenant possession des républiques, eh bien, la place devient lieu de la trahison et du mensonge, et le studio seul est lieu de la liberté. Donc, la perspective ne peut plus être un modèle de construction de l'historia. Ça me paraît tout à fait important de montrer comment, dès le XVe siècle, dans le fond, les 50 premières années de l'emploi d'une perspective avec supposément des règles, dont on suppose qu'elles ont des règles, il y a très très vite, non seulement les peintres jouent avec, mais en plus, le système lui-même prend des fonctions, différentes. Il est utilisé ou rejeté, pratiqué d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît tout à fait important de souligner ce point-là sur la perspective. Alors, la perspective ne disparaît pas pour autant, elle demeurera pendant 5 siècles, la base même de la représentation. Cela dit, elle n'a pas toujours le même sens, elle change, elle est jouée d'une manière ou d'une autre, et surtout, elle a des modes d'emploi. Il y a des modes d'emploi à la perspective qui peuvent lui donner différents sens. Un moment qui me frappe beaucoup aussi, c'est le moment où, à Rome, Raphaël font le classicisme et la belle manière romaine, avec l'école d'Athènes, entre autres, mais l'école d'Athènes est un des chefs-d'œuvre de cette manière classique, eh bien, l'école d'Athènes est une perfection de perspective. Et, comme l'a très bien dit Frédéric Hart, l'école d'Athènes et ce classicisme romain de Raphaël, il montre une confiance dans l'accord entre culture et pouvoir, et confiance dans l'équilibre de la belle forme et la transparence de la forme à son sens. Il se trouve qu'en quelques années, Raphaël va défaire ce système. Et lui-même, c'est pas d'autres qui le défont. Mais l'école d'Athènes, c'est, je crois, 1512, à peu près, 1512, 1513, dès la chambre des lieux d'or et dès la chambre 110, c'est-à-dire 5 ans plus tard, la perspective est jouée, elle devient contradictoire. Le principal se trouve minuscule au fond, alors que le secondaire est au premier plan énorme, ça c'est l'incendie du bourg. La régularité géométrique a l'air d'être remplacée par des luminosités étranges. Ça, c'est Héliodore chassé du temple. Il est clair que la perspective a très vite fait son temps. C'est même Raphaël, ce génie de l'équilibre, de la transparence, eh bien, il ne la garde pas parce que, je dirais tout simplement, la réalité historique empêche de croire à cet équilibre de la culture et du pouvoir. Et la réalité des conflits historiques font que, eh bien, le paradoxe s'installe à l'intérieur de la perspective. Et là, il est passionnant, je crois, de voir comment, effectivement, en quelques années, on va dire en une quinzaine d'années, c'est pas de l'anticlassicisme qui va venir, mais c'est exactement ce qu'on appellera plus tard le maniérisme, c'est-à-dire un jeu paradoxal sur les équilibres du classicisme, et qui à la fois montre qu'on ne peut plus croire à ces équilibres, que la situation est assez catastrophique du point de vue politique et culturel, le schisme est en train de s'installer. En 1527, Charles Quint vient mettre Rome à sac, etc. C'est un traumatisme complet, et donc les équilibres et la commensurabilité du monde, enfin la confiance que la perspective manifestée dans les capacités de l'esprit par les mathématiques, etc., à organiser, à comprendre, eh bien, la réalité historique vient le dénier. Et donc, à ce moment-là, la perspective ne peut plus être manifestée comme un instrument de construction. Elle continue, bien sûr, à construire, mais ou bien elle est démontrée artificiellement. Et alors, on a les grands perspectivistes flamands de la fin du XVIe siècle, qui sont des grands maniéristes, ou bien elle est même purement et simplement déniée, des positions de Rousseau, avec côte à côte l'immense Saint-Jean et les minuscules soldats qui sont au fond, mais aucun moyen de mesurer le passage d'un à l'autre, c'est-à-dire un proche lointain absolument immédiat. Et on peut dire qu'au XVIe siècle, la perspective, elle envoie toutes les couleurs, si on peut dire comme ça. Et pourtant, au XVIIe siècle, elle va devenir un des grands instruments de la peinture. Et en particulier, je pense au grand trompe-l'œil baroque de la fin ou même du milieu du XVIIe siècle ou fin du XVIIe siècle. Ça redevient un instrument porteur de sens à un point extraordinaire. Que s'est-il passé entre cette espèce de crise, on va dire, la perspective au XVIe siècle et son retour glorieux, je pense, à l'église Saint-Ignace à Rome du père Pozzo, grand mathématicien et grand maître en trompe-l'œil. Bien, c'est qu'entre les deux, entre autres choses, il s'est passé beaucoup de choses. Mais du point de vue de l'histoire de la perspective et de ses éventuels contenus, je dis bien éventuels, il y a un point très important, c'est qu'on a admis désormais que le monde était infini. Le monde est devenu infini. Bruno l'avait déjà annoncé, il va en mourir, il va être brûlé pour ça, mais on peut dire qu'à partir de 1640-50, l'idée du monde infini n'est plus une idée blasphématoire. Et à ce moment-là, la perspective revient magnifiquement. Pourquoi ? Parce que la perspective permet de passer sans rupture de l'homme fini à Dieu infini. Alors que au XVe siècle, la perspective servait à montrer l'incommensurabilité de Dieu à l'homme dans l'Annonciation, eh bien au XVIIe siècle, au contraire, si vous allez à Saint-Ignace à Rome, qui est un des lieux où on peut le constater, vous avez dans l'Église un point très précis, vous pouvez vous mettre, et à ce moment-là, vous levez la tête, et le monde de Dieu est au-dessus de vous, mais en continuité avec vous, sans rupture, l'homme, le monde de l'homme qui sera un monde fini, et l'infini divin. L'homme est fini, mais puisque le concept d'infini est entré maintenant, l'univers, on est passé du monde clos à l'univers infini, comme l'avait dit Alexandre Coiré, eh bien, la perspective devient l'instrument de cette mise en visibilité de l'infini de l'univers divin. Et un des moments que je trouve également très intéressant pour l'histoire de la perspective et de ses sens éventuels, c'est le moment où la perspective va être rejetée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une forme de représentation en peinture. Je pense ici aux symbolistes, parce que les impressionnistes sont encore dans le monde de la perspective. Mais avec le symbolisme et le cubisme et surtout l'abstraction, la perspective, dans le fond, n'est plus un instrument de représentation. Et donc, elle prend un sens très intéressant. Que devient-elle, que devient-elle à nouveau? Que devient et que signifient les tableaux qui sont encore pas en perspective au cours des années 1990-1910? Les genres de perspective, je crois, elles seraient à faire de cette manière-là, en voyant comment, dans le fond, c'est une structure de représentation qui est inventée à un certain moment à travers des processus historiques très précis et qui devient à ce moment-là le mode de représentation et du monde, mais qui est tellement partagé à un certain moment qu'il n'a plus de sens en lui-même. Son sens dépend de l'emploi qu'on en fait en fonction des circonstances historiques, historiques politiques, culturelles, philosophiques, etc. Et donc c'est une longue histoire qui n'a pas été faite parce que je pense qu'il faudrait plusieurs pour la faire. Parce que, on peut avoir une connaissance assez précise des coordonnées, des données au 15e, au 16e siècle, mais dès lors qu'on aborderait ces questions pour le 17e, le 18e, le 19e, je pense qu'il faudrait plusieurs pour se lancer dans cette histoire. C'est une histoire collective, forcément.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Carole Sandevoir, Claire Levasseur, Jean-Claude Loiseau.